Le chic était de faire soi-même les robes que Mariano Fortuny avait créées à Venise et dont les motifs s'inspiraient de tissus anciens, orientaux, africains, voire libertés, où Proust voit l'influence de Carpaccio. Il fallait voir les fines mains musulmanes, ornementées ou aînées, réinventant la robe offerte à Albertine par le héros, après consultation de la duchesse de Guermantes, qui, infaillible experte en manière de toilette féminine, en avait lancé la mode à Paris, avec son ornementation arabe et ses manches doublées d'un rose cerise, qui est si particulièrement vénitien qu'on l'appelle rose Tiepolo. Quelle fierté pour ces jeunes filles que de renouer, grâce à la littérature, avec un art qui les libérait de l'emprise sévère de leurs frères. Et elles se plaisaient à ouvrir, déployer, agiter, replier des éventails de plumes. Que Proust ne réussissait-il pas post-mortem? Pour celles qui n'avaient pas de talent couturier mais de l'argent, un siècle après Barbany, les boutiques du boulevard Haussmann attiraient des élégantes parisiennes. Même, surtout, les garçons des cités n'hésitaient pas à remplacer la casquette de travers par un haut de forme. Fournisseur des scènes de spectacle, Théâtre Hall dans le quartier parisien de l'Odéon fut tout surpris de l'afflux de commandes de ces chapeaux de 14 cm de haut en gros feutre de laine, à partir de 73 €, et de 18 cm en poil de lapin, à 179 € fournis avec sa brosse. Ils fermaient leurs chemises d'une cravate ou d'une lavallière et portaient des gants gris-perles. Ils se rapprochaient ainsi des sapeurs africains, membres de la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Mais loin de ce qui les avait fait succomber à la tyrannie des griffes. Mode assumée, jusque y compris l'étiquette du grand faiseur, cousue sur l'extrémité de la manche du costume. Qui étaient-ils ces déracinés, fous de fringues, sinon des héritiers du beau Brummel? Fils de sape, les nouveaux dandys en perpétuelle obsession de porter beau. En Yamamoto, ils faisaient le lien avec les lointains aristos. En Dolce et Gabbana, ils se croyaient du Gotha. Toujours en représentation, ils ressemblaient aux parents des Guermantes et aux habitués des salons. Certes, des dérapages accompagnaient la tendance. Ainsi, des voyous de toutes sortes de cités suivirent le mouvement en s'appuyant sur une canne à pommeau du dernier chic. Mais la leur était une Swordken en acier nickelé, 149 € TTC, considérée et utilisée comme une arme blanche. Du cran d'arrêt à la canne épée, côté des lits, le progrès n'était pas flagrant. Mais globalement, d'invisibles fils se tissaient entre la kermesse d'Aubervilliers et le faubourg Saint-Germain. Chacun, en son genre, vivait dans un ghetto, revendiqué comme un, sinon le, paradis. Des passerelles continuaient de s'établir entre les gens du monde et les futurs mandats. Comme le proclamait Noureddine, Neuilly ou Gentilly, c'est toujours la banlieue. Décidément, ils savaient trousser des expressions. On échangeait, on s'invitait, on se rendait visite. Le point de ralliement, c'était le plaisir qu'on ressentait à la découverte de Proust, et plus souvent qu'à leur tour, c'était les quartiers qui entraînait les beaux quartiers. Considérez, disait Farid, que cette passion littéraire et élitaire constitue nos quartiers de noblesse. Et c'est toujours Farid qui lançait Aristo ou Prolo a chacun sa particule, car nous avons tous notre de Mante ou de Guermante. Les quartiers se rapprochaient donc des trois quartiers, et la mondanité y était vécue comme une éthique. Des écoles s'opposaient. Le débat le plus vif étant celui d'une trendy vs dandy, tendance contre élégance. On était loin du caillassage et des voitures brûlées pour les uns, du mépris hautain pour les autres et des ghettos pour tous. Au quotidien, quel que fût le lieu, on laissait le haut du pavé aux personnes âgées, on tenait la porte aux dames, on s'effaçait devant les adultes, on regardait sans concupiscence les jeunes filles en jupe. Le récit de Fabrice touchait à sa fin, détaillant toute la psychologie de personnages fascinants, jusque dans leur insignifiance. À quoi pensez-vous, ma chérie? Mais à rien. C'était la fin de la journée. Les Champs-Élysées grouillaient, les autres espaces de Virgin bruissaient. Dans la salle de Fabrice, c'était un nième revirement du héros, décidé à quitter immédiatement sa bien-aimée en partant pour Venise. Les auditeurs retenaient leur souffle. Françoise annonce qu'à 8 heures, mademoiselle Albertine lui a demandé ses malles. Le héros confesse que son souffle est coupé, que ses mains tenant son cœur sont mouillées de sueur. Il ne peut que dire « Ah, très bien, vous avez bien fait, naturellement, de ne pas m'éveiller. Laissez-moi un instant, je vais vous sonner tout à l'heure. » Rideau. Formule toute symbolique car il n'y en avait pas. Applaudissements. La salle debout. Sourire sur les visages, mêlé de larmes chez certains grands sensibles. La fugitive suivrait la prisonnière, mais pour en connaître les rebondissements, il faudrait patienter. Fabrice, jusqu'alors, avait interprété un total de 74 959 lignes. Il lui en restait moins de 20 000, trois fois rien.